Chapitre 5.
Saïm avait disparu. Un matin, il était absent à son travail. Quelques écervelés commentèrent son absence. Le jour suivant, plus personne ne parla de lui. Le troisième jour, Winston se rendit au vestibule du département des archives pour consulter le panneau d'affichage. L'une des notes présentait une liste des membres du comité du jeu d'échecs dont Saïm avait fait partie. La liste ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, aucune rature, mais elle comportait un nom de moins. Cela suffisait, Saïm avait cessé d'exister, il n'avait jamais existé. Il faisait épouvantablement chaud. Dans le labyrinthe du ministère, les pièces sans fenêtres et dotées de l'air conditionné maintenaient une température normale. Mais au dehors, les trottoirs vous brûlaient les pieds et la puanteur du métro à l'heure d'affluence était une horreur. Les préparatifs de la semaine de la haine battaient leur plein et les équipes de tous les ministères faisaient des heures supplémentaires. Il fallait organiser des processions, des réunions, des parades militaires, des expositions, des projections de films, des programmes d'écrantelles. Il fallait fabriquer des statues de cire, des stands, des effigies, inventer des slogans, écrire des chansons, lancer des rumeurs, falsifier des photographies. L'unité de Julia au département des fictions avait abandonné la production de romans et publiait à toute vitesse une série de pamphlets monstrueux. Winston, en plus de son travail habituel, passait beaucoup de temps chaque jour à parcourir des archives du Times et à modifier ou embellir des nouvelles qui devaient être citées dans les discours. Tard le soir, quand des hordes de prolétaires tapageurs parcouraient les rues, une étrange atmosphère de fébrilité flottait dans la ville. Les roquettes s'écrasaient plus souvent qu'à l'ordinaire, et il y avait parfois au loin d'énormes explosions que personne ne pouvait expliquer et sur lesquelles couraient de folles rumeurs. La nouvelle mélodie qui devait être la bande-son de la semaine de la haine, on l'appelait la chanson de la haine, avait déjà été composée et passée en boucle sur les écrantelles. C'était un rythme sauvage, une sorte d'aboiement qu'on ne pouvait exactement appeler de la musique, mais qui ressemblait au battement d'un tambour. Rugi par des centaines de voix scandant une marche militaire, il était terrifiant. Les prolétaires l'avaient adopté, et dans les rues à minuit, il rivalisait avec le toujours populaire « C'était juste un rêve sans espoir ». Les enfants Parsons le jouaient à toute heure du jour ou de la nuit, de façon insupportable, avec un peigne et un morceau de papier toilette. Les soirées de Winston étaient plus occupées que jamais. Des équipes de volontaires, organisées par Parsons, préparaient la rue pour la semaine de la haine, cousant des bannières, peignant des affiches, installant des mâts pour les drapeaux sur les toits et tendant des câbles à travers la rue pour y accrocher les bannières au mépris du danger. Parsons claironnait que les maisons de la Victoire, à elles seules, déploieraient 400 mètres de pavoisement. Il était dans son élément. Il était gai comme un pinson. La chaleur et le travail manuel lui avaient donné un prétexte pour revenir le soir aux shorts et à la chemise ouverte. Il était partout à la fois, à pousser, à tirer, à scier, à donner du marteau, improvisant, encourageant tout le monde par des exhortations amicales et produisant par tous les replis de son corps ce qui semblait être une inépuisable réserve de sueur à l'odeur acide. Une nouvelle affiche était soudainement apparue dans tout Londres. Elle ne comportait pas de texte et représentait simplement la silhouette monstrueuse d'un soldat eurasien, haut de 3 à 4 mètres et chaussé d'énormes bottes, avançant, son visage asiatique dénué d'expression, et portant sur la hanche une mitrailleuse pointée en avant. Quel que soit l'angle par lequel vous regardiez l'affiche, le canon de l'arme, agrandi par la perspective, semblait être pointé directement sur vous. L'affiche avait été placardée sur chaque espace disponible de chaque mur, en plus grande quantité même que le portrait de Big Brother. Les prolétaires, habituellement indifférents à la guerre, étaient entrés dans l'une de leurs périodiques fièvres patriotiques. Comme pour s'harmoniser avec l'humeur générale, les roquettes tuaient plus de monde que d'habitude. L'une d'entre elles tomba dans une salle de cinéma bondée de Stepney, ensevelissant plusieurs centaines de victimes sous les ruines. Toute la population du voisinage sortit alors pour un long cortège funéraire qui dura des heures et qui était en fait une manifestation d'indignation. Notre bombe tomba sur un terrain vague, qui était utilisé comme aire de jeu, et quelques dizaines d'enfants furent mis en pièces. Il y eut encore d'autres manifestations de colère. On brûla une effigie de Goldstein. Des centaines d'exemplaires de l'affiche du soldat eurasien furent déchirés et jetés dans les flammes, et un certain nombre de magasins furent pillés dans la confusion. Puis la rumeur se répandit que des espions dirigeaient les tirs de roquettes au moyen d'ondes radio, et on mit le feu à la maison d'un vieux couple qui était suspecté d'être d'origine étrangère et qui périt étouffé. Dans la chambre au-dessus du magasin de Mr. Charrington, quand il pouvait s'y rendre, Julia et Winston restaient étendus côte à côte sur le lit sans couverture, sous la fenêtre ouverte, cherchant la fraîcheur. Le rat n'était jamais revenu, mais les punaises s'étaient horriblement multipliées avec la chaleur. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Sale ou propre, la pièce était un paradis. Dès qu'ils arrivaient, ils saupoudraient tout de poivre acheté au marché noir, arrachaient leurs vêtements et faisaient l'amour, leur corps en sueur, puis s'endormaient, et ils se réveillaient pour constater que les punaises se rassemblaient pour la contre-attaque. 4, 5, 6, ils se rencontrèrent 7 fois durant le mois de juin. Winston avait abandonné son habitude de boire du gin à toute heure. Il semblait ne plus en avoir besoin. Il avait pris du poids, son ulcère variqueux avait presque disparu, ne laissant qu'une marque brune sur la peau au-dessus de sa cheville, et ses quintes de toux du matin avaient cessé. La vie avait cessé d'être intolérable, il n'était plus tenté de faire des grimaces à l'écrantelle ou de hurler des insanités à tue-tête. Maintenant qu'ils avaient une cachette sûre, presque un foyer, il ne semblait même plus être difficile de ne se voir qu'irrégulièrement et pour 2 heures à chaque fois. Ce qui comptait, c'était que la pièce au-dessus de la brocante existât. Savoir qu'elle était là, inviolable, c'était presque la même chose que d'y être. La chambre était un monde, un fragment du passé dans lequel pouvaient marcher des espèces disparues. Mr. Charrington, pensait Winston, était lui aussi un animal d'une espèce disparue. Il s'arrêtait souvent pour parler quelques minutes avec lui avant de monter l'escalier. Le vieil homme semblait ne sortir que rarement de chez lui, voire jamais, et par ailleurs il n'avait pratiquement aucun client. Il menait une existence fantomatique entre son petit magasin sombre et son arrière-cuisine plus petite encore, où il préparait ses repas et qui contenait, entre autres choses, un gramophone incroyablement ancien avec un énorme pavillon. Il semblait heureux d'avoir l'occasion de parler. Errant au milieu de son stock sans valeur, avec son long nez, ses épaisses lunettes et ses épaules voûtées dans son gilet de velours, il avait toujours plutôt l'air d'un collectionneur que d'un commerçant. Avec une sorte de fade enthousiasme, il caressait telle ou telle camelote, un bouchon en porcelaine, le couvercle peint d'une tabatière cassée, un médaillon de pacotille contenant la mèche de cheveux d'un bébé mort depuis longtemps, ne proposant jamais à Winston de les acheter, mais seulement de les admirer. Parler avec lui, c'était comme écouter le tintement d'une vieille boîte à musique. Il avait encore tiré des recoins de sa mémoire quelques fragments de chansons oubliées. Il y en avait une à propos de 24 merles et une autre à propos d'une vache à la corne tordue et une autre à propos de la mort d'un pauvre rouge-gorge.
« J'avais juste pensé que cela pourrait vous intéresser, »
disait-il, avec un petit rire d'excuse à chaque fois qu'il se remémorait un nouveau morceau. Mais il ne pouvait jamais se souvenir de plus de quelques vers à la fois. Winston et Julia le savaient bien. En un sens, jamais ils n'oubliaient que tout cela ne pourrait durer longtemps. Il y avait des moments où l'idée de la mort imminente semblait aussi palpable que le lit sur lequel ils étaient étendus, et ils s'accrochaient l'un à l'autre avec une sorte de sensualité désespérée, comme une âme damnée se raccrochant à son dernier instant de plaisir alors que l'horloge doit sonner 5 minutes plus tard. Mais il y avait aussi des moments où ils avaient une illusion non seulement de sécurité, mais aussi de permanence. Tant qu'ils étaient effectivement dans la chambre, ils sentaient tous deux qu'aucun mal ne pouvait les atteindre. S'y rendre était difficile et dangereux, mais la chambre elle-même était un sanctuaire. C'était comme quand Winston avait regardé au cœur du presse-papier, avec le sentiment qu'il serait possible de rentrer dans ce monde de verre et qu'une fois à l'intérieur, le temps pourrait être arrêté. Souvent, ils se laissaient aller tous deux à des rêves d'évasion. Leur chance durait toujours, et ils poursuivaient leur aventure, comme cela, tout le reste de leur vie sur Terre. soit Katharine mourait et par de subtiles manœuvres Winston et Julia parvenaient à se marier, soit ils disparaissaient, modifiant leur apparence au point de ne plus pouvoir être reconnus, apprenaient à parler avec un accent de prolétaire, trouvaient du travail dans une usine et vivaient leur vie dans une petite rue sans être retrouvés. C'était absurde, ils le savaient tous deux. En réalité, il n'y avait pas d'échappatoire. Même le seul plan qui fut praticable, le suicide, il n'avait pas l'intention de le réaliser. S'accrocher jour après jour, semaine après semaine, faire durer un présent qui n'avait pas de futur, semblait un instinct invincible, tout comme un poumon cherchera toujours à respirer tant qu'il y aura de l'air. Parfois aussi, il parlait de s'engager dans une rébellion active contre le parti, mais sans savoir comment faire le premier pas. Même si la légendaire confrérie était une réalité, il restait toujours la difficulté de parvenir à y entrer. Il lui parla de l'étrange intimité qui existait ou qui semblait exister entre lui et O'Brien, et de l'impulsion qu'il ressentait parfois d'aller tout simplement trouver O'Brien, de lui annoncer qu'il était un ennemi du parti et de lui demander son aide. Fort curieusement, cela ne sembla pas à Julia d'une témérité inenvisageable. Elle avait l'habitude de juger les gens à leur visage, et il lui semblait naturel que Winston pût juger O'Brien digne de confiance à la suite d'un simple échange de regards. Plus encore, elle tenait pour acquis que tout le monde, ou presque tout le monde, haïssait secrètement le parti, et enfreindrait les règles s'il pensait pouvoir le faire en toute sécurité. Mais elle refusait de penser qu'une opposition vaste et organisée existait ou pouvait exister. Les histoires à propos de Goldstein et de son armée secrète, disait-elle, étaient seulement des bêtises inventées par le parti dans son propre intérêt et auxquelles on devait faire semblant de croire. D'innombrables fois, lors de rassemblements du parti ou de manifestations spontanées, elle avait hurlé de toutes ses forces pour réclamer l'exécution de personnes dont elle n'avait jamais entendu les noms auparavant, pour des crimes auxquels elle ne croyait pas un instant. Quand des procès publics se tenaient, elle avait tenu sa place dans les détachements des ligues de la jeunesse qui entouraient les tribunaux du matin au soir, chantant régulièrement « Mort aux traîtres !» Pendant les 2 minutes de la haine, elle surpassait toujours tous les autres par les insultes qu'elle hurlait en direction de Goldstein. Et pourtant, elle n'avait qu'une idée très vague de qui était Goldstein et de la doctrine qu'il était censé représenter. Elle avait grandi après la Révolution, et était trop jeune pour se souvenir des combats idéologiques des années 50 et 60. Une chose telle qu'un mouvement politique indépendant était au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, et de toute façon, le parti était invincible. Il existerait toujours, et serait toujours le même. On ne pouvait se rebeller contre lui que par une désobéissance secrète, ou au mieux par des actes de violence isolés, comme tuer quelqu'un ou faire exploser quelque chose. Par certains côtés, elle était beaucoup plus perspicace que Winston et beaucoup moins sensible à la propagande du parti. Une fois, alors qu'il mentionnait dans la discussion la guerre contre l'Eurasie, elle le stupéfia en lui disant tout simplement qu'à son avis, il n'y avait pas de guerre. Les roquettes qui s'abattaient tous les jours sur Londres étaient sans doute tirées par le gouvernement de l'Océanie lui-même, juste pour entretenir la peur. C'était une idée qui n'était littéralement jamais venue à l'esprit de Winston. Elle éveilla aussi en lui une sorte d'envie quand elle lui raconta que durant les 2 minutes de la haine, le plus difficile pour elle était d'éviter d'éclater de rire. Mais elle ne s'interrogeait sur les enseignements du parti que quand ils concernaient d'une façon ou d'une autre sa propre vie. Souvent, elle était prête à accepter la mythologie officielle, tout simplement parce que la différence entre la vérité et le mensonge ne lui semblait pas importante. Elle pensait par exemple, l'ayant appris à l'école, que le parti avait inventé les avions. Quand il était lui-même à l'école, Winston s'en souvenait, à la fin des années 50, c'était l'hélicoptère que le parti prétendait avoir inventé. Une génération de plus, et ce serait la machine à vapeur. Et quand il lui dit que les avions existaient longtemps avant sa naissance, et même longtemps avant la Révolution, elle trouva ce fait totalement dénué d'intérêt. Après tout, quelle importance cela avait-il, qui avait inventé les avions ? Ce fut un choc encore plus grand pour Winston de découvrir au détour d'une remarque qu'elle ne se souvenait pas que l'Océanie 4 ans plus tôt était en guerre avec l'Estasie et en paix avec l'Eurasie. Il était vrai qu'elle voyait toute la guerre comme une imposture, mais apparemment elle n'avait pas remarqué que le nom de l'ennemi avait changé. « Je pensais que nous avions toujours été en guerre avec l'Eurasie, » dit-elle vaguement. Cela effraya quelque peu Winston. L'invention des avions datait de longtemps avant sa naissance, mais le changement dans la guerre ne datait que de 4 ans, longtemps après qu'elle fût devenue grande. Il en parla avec elle pendant peut-être 1 quart d'heure. À la fin, il parvint à la forcer à chercher dans sa mémoire jusqu'à ce qu'elle se souvînt vaguement qu'à une époque, l'Estasie était l'ennemi et non l'Eurasie. Mais la conclusion lui parut toujours sans importance. « Qui s'en soucie ? » dit-elle avec impatience. « C'est toujours une saleté de guerre après l'autre, et on sait que les nouvelles sont entièrement fausses de toute façon. » Parfois, il lui parlait du département des archives et des odieuses falsifications qu'il y réalisait. De telles choses ne semblaient pas horrifier Julia. Elle ne sentait pas des gouffres insondables s'ouvrir sous ses pieds à la pensée de mensonges qui devenaient des vérités. Il lui raconta l'histoire de Jones, Aronson et Rutherford, et celle de l'important bout de papier qu'il avait tenu entre ses doigts. Cela ne fit pas une grande impression sur elle, et en vérité, elle eut d'abord du mal à saisir l'importance de l'histoire. « Était-il de tes amis ? » dit-elle.
« Non, je ne les ai jamais connus. C'étaient des membres du cercle intérieur du parti. De plus, ils étaient beaucoup plus âgés que moi. Ils appartenaient aux temps anciens, avant la Révolution. » Je les connaissais à peine de vue.
Alors quel était le problème ? Des gens sont tués tous les jours, non ? Il essaya de lui faire comprendre.
C'était un cas exceptionnel. Ce n'était pas juste une histoire de quelqu'un qui se fait tuer. Est-ce que tu te rends compte que le passé, à partir d'hier, a été réellement aboli ? S'il survit quelque part, ce n'est qu'à travers des objets concrets, auxquels n'est attaché aucun mot, comme ce bloc de verre là-bas. Déjà, nous ne savons littéralement plus rien de la Révolution et des années d'avant la Révolution. Chaque document a été détruit ou falsifié, chaque livre a été réécrit, chaque tableau a été repeint, chaque statue, chaque rue, chaque bâtiment a été renommé, chaque date a été modifiée. Et le processus se poursuit, jour après jour et minute après minute. L'histoire s'est arrêtée. Plus rien n'existe, à part un présent sans fin, dans lequel le parti a toujours raison. Je sais, bien sûr, que le passé a été falsifié, mais il ne me serait jamais possible de le prouver, même si j'ai fait la falsification moi-même. La chose faite, il ne reste jamais de preuve. La seule preuve se trouve dans mon propre esprit, et je ne suis pas certain qu'un autre être humain partage mes souvenirs. Juste une fois dans toute ma vie, j'avais entre les mains une vraie preuve, après l'événement, des années après.
Et quel bien cela a-t-il fait ?
Aucun, car je l'ai balancé quelques minutes plus tard. Mais si la même chose arrivait maintenant, je le garderai.
Eh bien pas moi, dit Julia. Je suis prête à prendre des risques, mais seulement pour quelque chose qui en vaut la peine, pas pour un vieux bout de journal. Qu'aurais-tu pu en faire même si tu l'avais gardé ?
Pas grand-chose, sans doute, mais c'était une preuve. J'aurais pu semer le doute ici ou là, à supposer que j'ai eu le courage de le montrer à quelqu'un. Je ne pense pas qu'on puisse changer quoi que ce soit de notre vivant. Mais on peut imaginer de petits nœuds de résistance qui apparaîtraient ici ou là, de petits groupes qui s'assemblent, qui croissent progressivement, et qui laissent même quelques traces derrière eux, afin que les générations suivantes puissent prendre la relève.
Je ne m'intéresse pas à la prochaine génération, mon chéri. Je m'intéresse à nous.
Tu n'es rebelle qu'en dessous de la ceinture,
lui dit-il. Elle trouva cela brillamment spirituel et l'entoura de ses bras avec délices. Elle ne s'intéressait pas le moins du monde aux ramifications de la doctrine du parti. Dès qu'il commençait à lui parler des principes du Sosang, de la pensée double, de la mutabilité du passé, de la négation de la réalité objective et à utiliser des mots de 9 langues, elle montrait des signes d'ennui et de confusion et disait ne jamais accorder la moindre attention à ce genre de choses. On savait que c'était des conneries, alors pourquoi s'en soucier ? Elle savait quand applaudir et quand huer, et c'était tout ce qu'on avait besoin de savoir. Et quand il continuait à parler de semblables sujets, elle avait l'habitude déconcertante de s'endormir. Elle faisait partie de ces gens capables de s'endormir à toute heure et dans n'importe quelle position. En lui parlant, il se rendait compte à quel point il était facile de présenter toutes les apparences de l'orthodoxie sans avoir la moindre idée de ce que pouvait signifier l'orthodoxie. En un sens, la vision du monde du parti s'imposait le plus facilement aux personnes incapables de la comprendre. il pouvait être amené à accepter les violations les plus flagrantes de la réalité, car il ne prenait jamais la mesure de l'énormité de ce qui leur était demandé, et ne s'intéressait pas suffisamment aux événements publics pour remarquer ce qui se passait. Ils ne gardaient leur santé mentale que grâce à leur manque de compréhension. Ils avalaient tout, tout simplement, et ce qu'ils avalaient ne pouvait leur faire aucun mal, car cela ne laissait aucun résidu, tout comme une graine qui traverse le corps d'un oiseau sans être digérée.